Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui.
Bonjour, nous revoilà pour les chroniques des médiathécaires. Aujourd'hui, les chroniques sont réalisées par Aurélie, Léa et moi-même, Annie. Je démarre avec mon coup de cœur musical pour cette rentrée. C'est l'album Winramara de Jawar, paru en avril 2018. Ce n'est pas une nouveauté, mais qu'importe, le coup de cœur est fort. Touchée par sa voix délicate, sa guitare légère et ses mélodies aux accents folk très belles, écoutez plutôt.
غني لي غناية بين عيناي غني غناية بدا العصفور دي علي لي زوز البابور كندور.
Jawar Basti grandit dans la banlieue de Tunis. Il part à 20 ans étudier l'anglais à Lille et c'est là qu'il écrit ses premières chansons et qu'il commence à se produire en solo. Depuis quelques années, il vit entre la campagne belge et la capitale tunisienne où il s'engage en tant que musicien, dramaturge et comédien. Une première création sulfureuse autour de l'amour et du sexe dans le monde arabe le voit renouer avec sa langue maternelle et réinventer la chanson d'amour tunisienne. Depuis, il ne cesse de creuser dans ses textes ces sillons qui mènent aux racines. Avec ce troisième album, Winramara, il écrit des chansons qui racontent des personnages vivant en marge de la société, mal compris, luttant pour leur singularité, et des histoires qui portent en creux un regard critique de la société et évoquent une certaine désillusion. Même si à travers cet album j'ai parfois essayé de la dépasser, d'aller vers plus de légèreté, la mélancolie, ça fait partie de moi. Analyse le chanteur. Elle reste la tonalité dominante de Winramara. Toutes les critiques voient en lui un Nick Drake tunisien. Comparaison justifiée avec le timbre de sa voix, les arpèges de sa guitare et la beauté sombre de ses univers. Cette comparaison le fait sourire et n'est pas sans lui déplaire. Il se souvient avoir été totalement chamboulé en découvrant l'univers du chanteur et guitariste anglais mort à 26 ans. J'avais l'impression d'être en face d'une âme sœur, de mon alter ego. Je me suis penchée sur ses textes et me suis rendu compte à quel point il était ailleurs dans sa manière d'écrire. Il avait quelque chose de très intérieur. Imaginé sur les cendres du printemps arabe, l'album Winramara chante les désillusions de la révolution, le manque, l'amour et l'espoir. Il s'est enrichi de la présence de trois musiciens complices, à la guitare, la basse, à la batterie et au clavier. Écoutez le magnifique et puissant titre « Soutbouk » qui signifie « La voix de ton père ». Cette chanson est illustrée par un clip poignant réalisé en octobre 2019 qui met en relief l'absurdité d'un monde rempli de superstitions, de recherches de sens et de quêtes impossibles. Et d'ailleurs, allez voir tous ces clips, 6 à ce jour, superbement construits. Ce sont de véritables petits films. La chanson Winramara, qui a donné son titre à l'album, montre la tristesse et la folie d'une femme ayant perdu son enfant. Et pour finir, je veux insister sur Bik Endur, qui retrace l'aventure inquiétante d'une jeune femme invitée à picorer dans un parking souterrain. Car Bik veut dire picorer et Endur succulent. J'ai un énorme coup de cœur pour ce dernier clip et cette chanson. C'est une sublime ballade qui prend de l'ampleur au fur et à mesure et délivre un beau message féministe. Une merveille. Vous trouverez ce bijou d'album à la médiathèque Vaillant et tous les clips sur YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je passe la parole à Aurélie.
Merci Annie. Aujourd'hui, je n'ai pas eu envie de choisir. Je ne vais pas présenter un, mais deux albums jeunesse. Car plus on est de fous, plus on rit. Et attention, cette chronique est pleine de blagues nulles, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Je vais vous parler de deux albums écrits et illustrés par Mathieu Lavoie et parus aux éditions Helium. Commençons par le commencement, l'histoire de Toto. Promis, ce n'est pas une blague de Toto, mais si vous voulez, je peux en raconter. Non ? Tant pis. Toto, donc, est un petit ver de terre qui veut une pomme. L'histoire s'appelle donc « Toto veut la pomme ». Simple, direct, efficace. Toto veut la pomme, d'accord. Mais la pomme est en haut et Toto est en bas. Alors Toto va expérimenter plusieurs techniques pour attraper la pomme. Leurrer un corbeau, se servir d'un écureuil, imiter les papillons. Mais toutes ces tentatives ne sont pas couronnées de succès. Alors, il recommence. Toto regorge d'idées. Toto bricole. Mais Toto arrivera-t-il à ses fins? Mystère. Le propos est servi par des phrases laconiques et une illustration minimaliste qui complète ce que le texte ne dit pas. Je ne vous en lirai donc pas d'extrait, la lecture sans les images enlèverait tout le sel de cette histoire. En revanche, vous devriez lire le livre. Toto vous attend à la médiathèque Césaire. Laissons Toto à sa pomme et retrouvons à présent Gilles. Gilles, c'est le héros du deuxième livre que je vous présente aujourd'hui. Gilles est un petit corbeau qui vient de voir le jour. Peut-être le bébé du corbeau du livre de Toto. En tout cas, ce qu'on sait avant d'ouvrir le livre, c'est que Gilles a un pépin. Mais pas un pépin de pomme. La pomme, Toto... Ok, bref. Le titre est donc « Gilles a un pépin ». Mais que lui arrive-t-il donc? Il se trouve que Gilles, toujours dans son œuf, est tombé au pied de l'arbre, où dort un renard. Un corbeau et un renard, cela ne vous rappelle rien? Eh oui, grâce à Gilles, vous allez enfin découvrir la vérité sur la célèbre fable du corbeau et du renard. Ici, le texte est toujours assez laconique, descriptif, et l'illustration accentue l'aspect humoristique du livre. Je ne résiste pas cette fois à vous en lire le début. Oh, l'arbre ! Mais qu'est-ce qui est tombé de l'arbre ? Un œuf ? Et qu'est-ce qui sort de l'œuf ? Gilles ! Et qu'est-ce que Gilles crie ? Maman ! Et qu'est-ce que la maman de Gilles crie ? Au renard ! Au renard ! Et qu'est-ce que le renard fait ? Il dort ! Chut ! Et qu'est-ce que Gilles fait ? Il cherche ! Et qu'est-ce que Gilles trouve ? Rien ! Et qu'est-ce que le renard fait ? Il se réveille ! Et qu'est-ce que la maman de Gilles crie ? Au renard ! Au renard ! Et qu'est-ce que le renard fait ? Il sent Gilles ! Et qu'est-ce que Gilles fait ? Il cherche ! Et qu'est-ce que Gilles trouve ? Un ver ! Et qu'est-ce que le ver crie ? Ah non ! Et où est le renard ? Comme je suis sympa, je m'arrête sur ce suspense intense. Les auditeurs attentifs auront d'ailleurs remarqué qu'un verre s'est incrusté dans cette histoire. Serait-ce Toto ? Alors, pour connaître le fin mot de l'histoire, deux solutions. Empruntez le livre à la médiathèque Vaillant ou à la médiathèque Césaire, ou venir à l'une des deux séances de Bébé Bookin de samedi. L'histoire de Gilles est au programme de l'animation. Rendez-vous donc le samedi à la médiathèque Césaire, à 10h30 ou à 11h, pour découvrir la suite des aventures de Gilles. Pensez à vous inscrire. Plus d'informations sur notre site culture.bourg-en-bresse.fr. Et sans transition aucune, je vous laisse avec Léa et Thésée sur un bateau.
Le bateau de Thésée est le nom donné à un paradoxe. Pour perpétrer le souvenir de Thésée, leur héros, les Athéniens ont entretenu son bateau en remplaçant petit à petit les planches usées par des neuves jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule planche d'origine. Peut-on dire que ce navire est resté le même ? D'où ce paradoxe. Et qu'en est-il si on transpose cette réflexion à l'homme ? Ha ! Bonne question, hein ? Ce paragraphe, c'est le premier du manga Le bateau de Thésée, écrit et illustré par Toshiya Higashimoto. Voilà qu'elle nous présente un manga philosophique. Eh ben, bien que j'ai rien que les mangas philosophiques, hein, laissez-moi vous surprendre, ici, on se rapproche plus du genre policier. Dans cette histoire, on suit Shin, un jeune homme qui doit vivre avec un poids sur les épaules. Alors qu'il n'était même pas encore né, son père a commis un crime terrible. En effet, il a empoisonné 21 personnes, majoritairement des enfants, lors d'un goûter à l'école primaire de Tohoussou. Ah bah, j'ai dit que c'était pas philosophique, hein, pas que c'était joyeux et bonjour les bisounours. Notre cher Shin, étant devenu père lui-même, il souhaite en savoir plus sur ce qu'il s'est passé ce jour-là afin de se débarrasser définitivement du poids du passé. Et il se rend alors sur les lieux du crime. C'est alors qu'un épais brouillard se lève et paf ! Il se retrouve devant l'école de Tohoussou alors qu'elle a été détruite suite aux empoisonnements. Bien mystérieux tout ça, hein ? Bon, je vous en dirai pas plus, je ne suis toujours pas une adepte du divulgachi. Divulgachi, c'est spoiler, mais en français. Je précise, on sait jamais. Mais bon, je peux vous dire sans trop en dévoiler qu'il est question de voyage dans le temps et de modification du cours des choses. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi le bateau de Thésée, c'est trop bien. D'abord, les illustrations sont très belles. Toshiya Higashimoto propose des cases juste assez détaillées pour que l'on se plonge pleinement dans les décors et les ambiances, sans que pour autant trop de détails justement nous sortent de l'histoire. De plus, les émotions des personnages sont très bien transcrites sur leur visage, que ce soit lors de scènes graves et sérieuses, ou de moments plus légers, avec un petit côté cartoon aux expressions des personnages comme savent bien le faire les mangaka. D'ailleurs, en parlant des illustrations, je me dois de préciser que certaines images sont très dures, âme sensible et enfant s'abstenir donc. Je rappelle qu'on parle quand même de meurtre d'enfants, entre autres. Ensuite, l'histoire et l'enquête menées par Shin sont extrêmement bien ficelées. Oui, extrêmement. C'est pas juste un superlatif. J'ai vraiment été impressionnée par la tenue du scénario et l'enchaînement des événements qui nous font passer d'une théorie à l'autre, d'une suspicion à une autre. Bon, je suis peut-être mauvaise enquêtrice, ça c'est pas exclu, mais en tout cas, j'ai été surprise à de nombreuses reprises en lisant. Enfin, les personnages sont tous intéressants. Que ce soit parce qu'on s'y attache ou parce qu'ils nous sont insupportables, tous les protagonistes de cette histoire sont amenés de telle façon que l'on ne peut pas rester indifférent à leur sort. On s'inquiète pour eux, on veut qu'ils disparaissent, on aimerait leur faire un câlin. Enfin, un salut de loin en ce moment, mais vous comprenez l'idée. L'auteur réussit vraiment à nous montrer plusieurs facettes des personnages et à construire les relations entre eux, ce qui renforce encore l'immersion dans cette enquête pleine de rebondissements. Et si tout cela ne suffit pas à vous convaincre de lire Le bateau de Thésée, voici l'argument ultime, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Cette série a été lue et approuvée par une bonne partie de vos bibliothécaires préférés. Alors moi, si j'étais vous, je me précipiterais à la médiathèque Camus pour emprunter les 5 premiers tomes de la série. Ensuite, vous pourrez nous rejoindre dans le noir et la désolation de l'attente du tome 6. Et sur ces bonnes paroles, les chroniques, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt dans vos médiathèques et sur Radio B.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Wouhou !